the morning, I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evilous man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Oh yeah. Shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evilous man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h passé de 4 petites minutes, vous êtes toujours sur Radio G, et tout de suite c'est l'heure de Génération Sport. Après ce beau générique, vous l'avez reconnu, vous avez donc remarqué que c'est l'heure de Génération Sport. Vous êtes toujours sur Radio G sur le 101.5 FM, ou alors vous nous écoutez sur le site internet www.radio-g.fr. Une émission un peu particulière aujourd'hui, puisque nous sommes que deux. Alex est absent ce soir, mais Cédric est bien avec moi. Il est à la régie aujourd'hui. Bonsoir Cédric.
Salut à tous.
Alors aujourd'hui, Cédric, on va avoir un programme assez intéressant. Ça fait maintenant 2 semaines que les Jeux Olympiques ont commencé. Il y aura matière à débattre.
Oui, ouais, parce qu'on a eu beaucoup de belles surprises, malgré une grosse illusion, je pense notamment. On en parlait déjà la semaine dernière en mettant des attentions. La boxe, entre autres, qui, je pense, va encore faire débat ce soir et dans les mois à venir, je pense, pour son avenir olympique.
Et puis au-delà des Jeux Olympiques, on va parler de football et de Ligue 1, puisque dès ce week-end, vous aurez le droit à la reprise du championnat de France. On va, bah, c'est justement ce de quoi on va parler en premier lieu. Cédric, donc, est-ce que tu as sous les yeux la liste des matchs pour ce week-end ?
Non, je suis en train de...
Eh bien moi,
je vais chercher, mais si tu l'as, écoute, c'est
je,
avec
peux,
plaisir.
Je peux l'annoncer. Donc cette nouvelle saison de Ligue 1 commencera donc ce vendredi à 21h avec Monaco Nantes. Ensuite, ça continuera samedi avec Lyon qui recevra Brest et Troyes qui recevra le Paris Saint-Germain. Et puis enfin, dans la journée de dimanche, on aura beaucoup de matchs. Rennes face à Lens, Saint-Etienne face à Lorient, Nice face à Reims, Strasbourg face à Angers, Bordeaux face à Clermont, Metz face à Lille. Et puis cette journée de Ligue 1, cette première journée de Ligue 1 se clôturera par Montpellier contre l'Olympique de Marseille. Donc le SCO, je viens de l'annoncer, joue contre Strasbourg. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe angevine? Il est encore trop tôt pour pouvoir juger, bien sûr, mais est-ce que tu as envie de croire à cette équipe?
J'ai un petit peu peur.
Ouais.
J'ai un petit peu peur. Il y a quand même eu des départs qui sont pas négligeables. Il y a le extra-sportif aussi qui peut peut-être peser sur les conditions de bonne ambiance dans le club. Alors peut-être pas directement sur les joueurs, mais en tout cas, ça peut toujours avoir un impact. Il y a quand même la grosse interrogation, c'est l'entraîneur, c'est-à-dire première prise vraiment de position. Donc, je crois que le bilan des matchs de préparation est pas si mauvais que ça. Donc à voir, mais ça, pour moi cette année, ça va peut-être être plus dur pour le maintien.
Ouais, justement, je regardais les matchs de préparation des Angevins. Le dernier, c'est une défaite face à Lorient 1-0. Juste avant, Angers a battu 3-0. Ensuite, le SCO a eu un adversaire plutôt coriace, puisqu'ils se sont déplacés au Portugal pour affronter le Sporting. Défaite 2-0 des Angevins. Et juste avant, ils avaient battu Châteauroux 3-0. Et leur premier match de pré-saison, c'était face à Niort avec un 2 partout. Donc il y a des résultats, il y a 2 victoires, voilà, il y a 2 défaites, 1 match nul. Bon, c'est moyen, mais est-ce qu'on attendait plus du SCO? Pas forcément.
Contre le Sporting, par exemple, c'est pas...
Oui.
C'est pas étonnant, j'ai envie de dire. Le Sporting est normalement largement au-dessus, hein, de base. Donc ça aurait été plutôt une surprise d'aller gagner là-bas. Mais bon, ça fait, je pense, une bonne préparation, au moins... Si on peut éviter de se prendre un wagon de but contre Paris, par exemple, cette année, ça, c'est, voilà, il faut jouer des matchs comme ça. La rigueur où on pourrait dire oui, ça peut être inquiétant, c'est contre Lorient. Bon, c'est 1-0, ça va, ça pourra toujours se rattraper selon les conditions du match. Mais c'est bon, ça va être sûrement un adversaire direct au maintien, donc...
Et justement, on parle beaucoup des Angevins. C'est donc l'heure de vous annoncer les grosses dates de ce calendrier. Donc après le déplacement à Strasbourg, le premier gros match de la saison des Angevins arrivera donc juste après, avec la réception de l'Olympique Lyonnais. Ce sera dimanche 15 août. Vous pourrez retourner dans les stades avec votre passe sanitaire, bien sûr. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc ce sera le 15 août prochain face à Lyon. Juste après, les Angevins se déplaceront à Bordeaux. Le derby face à Nantes, c'est prévu pour le 19 septembre. Juste après, le 22 septembre, les Angevins recevront l'Olympique de Marseille, et les Angevins se déplaceront au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain le 17 octobre. Et enfin, les vainqueurs les champions en titre, les Lillois, recevront les Angevins le 7 novembre prochain. Voilà ce qui en est des très gros matchs durant la première partie de saison. Est-ce que, Cédric, si on peut se mouiller un petit peu, quel pronostic sur la première partie de saison des Angevins on pourrait faire?
Milieu de tableau, c'est, je pense, le minimum. Hein.
Ah, c'est vrai que c'est...
Enfin, va falloir aller chercher dès les premiers matchs les points importants, sachant qu'on risque d'en perdre facilement dès la deuxième journée, par exemple. Donc même le premier match, il va pas être forcément si facile que ça, hein. Ça va être la reprise. Donc je pense, ouais, c'est minimum d'être déjà dans le top 10 à la trêve de la mi-saison, quoi.
C'est vrai que sur ces dernières saisons, on se disait à chaque début de championnat que, voilà, l'objectif du SCO, c'était d'être dans le milieu de tableau, de se maintenir. Et des fois, on était surpris de manière positive, puisqu'on arrivait à accrocher des très bonnes places, des places assez hautes sur ces dernières années. Mais là, j'ai l'impression que ça va faire j'ai peur que ça fasse l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on s'attende à une 10e place et que on ait un début de championnat très compliqué avec une nouvelle équipe, avec un nouveau staff. et qu'on dégringole assez rapidement en championnat. C'est, de la, c'est la grosse crainte que j'ai par rapport aux Angevins. Mais j'espère évidemment que ma crainte ne se réalisera pas et qu'ils réussiront à être, comme d'habitude, aux alentours de la 10e place.
Puis le facteur 12e homme n'est pas assuré en plus hein, cette année, puisqu'il y a quand même certains COP qui appellent au boycott des matchs à domicile à cause de la politique de... pour arriver... Enfin, du coup, il n'y a pas eu d'abonnement, de campagne d'abonnement comme tous les ans.
Ouais.
Officiellement, pour des raisons d'incertitude sur la tenue correcte de la saison vis-à-vis de la saison sanitaire. Il y a eu quand même des augmentations de prix. Donc, si on met les limitations dans les stades, plus les augmentations de prix, plus ce côté, bah, du coup, remerciement aux fans ardus... qui sont pas satisfaits, apparemment les flambées pour le match de Lyon en termes de prix, c'est inimaginable. Enfin, comparé à quand il y a les abonnements, c'était pas des prix qui flambaient autant. Donc, ça peut être un facteur qui peut être très compliqué aussi, ça.
Bon voilà, en tout cas vous aurez l'occasion avec Génération Sport de suivre tous les résultats de la Ligue 1 et bien évidemment du SCO d'Angers.
Faudra-t-il qu'on arrive à voir les matchs?
Faudra-t-il, oui, il y a une nouveauté en plus, c'est la diffusion des matchs. Aussi, oui. Ça aussi on aura l'occasion d'en reparler à l'occasion avec Alex notamment. Donc du coup, oui, j'allais dire, il y a déjà eu un match de Ligue 1 qui a été joué. Alors un match entre deux équipes de Ligue 1, mais c'était pas un match de Ligue 1. C'était le trophée des champions, pardon, dimanche dernier entre Lille, vainqueur du championnat de France, et le Dauphin Paris Saint-Germain. Victoire surprenante, donc victoire de Lille 1-0. Victoire surprenante ou pas, Cédric?
Non, je dirais... C'est un peu l'équipe type de Lille qu'on avait la saison passée, donc pas surprenant. Après, Paris a fait le choix de tester des joueurs sur ce match-là. Ça a été, je dirais, mi-fig, mi-raisin en termes de réussite.
Oui, parce que tu parles des joueurs, c'est vrai qu'il n'y avait pas les très très grandes stars du Paris Saint-Germain, il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Marquinhos, il n'y avait pas Verratti, voilà, il y avait beaucoup de jeunes sur le terrain, il y avait Hakimi, la nouvelle recrue notamment, mais ouais, donc c'était un pari en rodage un peu.
C'est ça, voilà, donc au vu de la saison qu'ils peuvent envisager, ça peut se comprendre aussi d'avoir testé les titis parisiens, comme ils sont souvent surnommés. Donc c'est pour ça. Après, j'ai pas trouvé le match non plus exceptionnel hein, des deux côtés. Hein. On sent que c'est un match de reprise. Qui plus est, en plus joué devant un public étranger.
C'était à Tel Aviv le match.
C'était à Tel Aviv. Ouais. Il y avait quelques supporters vraiment qui ont fait le déplacement, mais ça pareil. Je sais pas ce que la fédération a eu dans la tête. Sûrement que le chèque devait être plus intéressant que de jouer ça dans un stade français. Ça aurait été plus intéressant cette année de le faire comme l'année dernière à Lens.
Je pense que ça s'est déjà vu des matchs du trophée des champions.
Oui, non, mais c'est tous les ans que c'est du grand n'importe quoi. C'est soi-disant un outil pour promouvoir la Ligue 1, mais bon. Si tu veux pouvoir ta Ligue 1, les supporters font partie du jeu. Donc, ça fait qu'on avait des conditions de jeu aussi, de chaleur, tout ça, qui ne sont pas forcément celles qu'on aura en début de saison. Enfin, après, c'est une coupe qui a été créée histoire de faire de l'argent. Hein. Donc, ouais, un match sans plus. Enfin, qui sert à avoir quelques enseignements, mais. On ne pourra pas juger la qualité de la saison, par exemple, de Paris sur ce match-là.
Justement, on parlait de l'équipe parisienne qui a réalisé un mercato très impressionnant avec l'arrivée de Sergio Ramos, d'Hakimi, de Donnarumma ou encore de Wijnaldum. Est-ce que tu penses que c'est le recrutement idéal pour le Paris Saint-Germain qui peut leur faire passer un cap en Ligue des Champions? Je dis un cap, mais il y a deux saisons de ça, ils arrivent quand même en finale de la compétition. Est-ce que ces recrues peuvent leur permettre d'aller chercher cette compétition?
Je sais pas. Il y a certaines recrues, oui, qui ont sûrement amené des choses. À Ramos, on le fait jouer comment? On le fait jouer que sur la Coupe d'Europe. On le fait jouer de temps en temps en, en championnat. On le fait pas jouer en Coupe de France. Enfin,
Ramos qui arrive en cours de forme en plus.
Oui, enfin, apparemment, soi-disant qu'il est parti en forme. Et que la visite médicale, il était en forme.
Oui.
Bon, apparemment, ce serait pas trop le cas, mais bon. Après, il a cette expérience quand même avec le Real.
Oui, bien sûr.
Il peut peut-être apporter ça au moins aux, aux jeunes du club. Parce que bon, je pense qu'avec les top stars, il faudra voir réellement, une fois qu'ils seront tous alignés ensemble, et voir comment ça se comporte réellement sur le terrain. Il y a toujours cette zone d'ombre aussi sur Mbappé.
Ouais.
On ne sait pas trop s'il va rester, s'il va partir. S'il se trouve, là, il peut partir du jour au lendemain, tant que le mercato est ouvert. Donc, bah déjà, il y a ce chantier-là à boucler une bonne fois pour tous. Ça, parce que ça peut être très plombant pour le début de la saison. Il y a peut-être une arrivée de Pogba.
Oui, c'est vrai aussi.
Ça peut être intéressant en termes de niaque, s'il nous fait comme, comme il peut faire en équipe de France. Ça peut apporter effectivement un plus. Mais après, par exemple, le recrutement du gardien italien, qui est un très bon gardien, il n'y a pas à dire. Ça va être un plus, effectivement, mais Paris a limite 11 gardiens. Quoi. Enfin, c'est,
ouais, je crois que c'est ça. Hein.
C'est
c'était
hallucinant
un record
le nombre de gardiens qu'ils ont sous la main.
Il me semble que encore à l'heure actuelle, Paris a 10 contrats ou 11 contrats de gardiens.
Ouais.
C'est assez impressionnant. Ouais.
Là, bon, ils ont réussi à... Enfin, je ne sais pas si c'est un prêt ou un transfert pour Areola. Mais,
ouais, Areola qui a été, ouais, qui a été une nouvelle fois prêté en, voilà, en Première Ligue. Alors, je ne sais plus exactement c'est dans quel club.
Je ne sais plus comme ça de mémoire, mais bon, ça fait quand même... Et après, ils avaient quand même un bon gardien.
Mm-hmm. Un très très bon gardien.
Un très très bon gardien même, oui. Alors c'est très bien d'un côté de mettre de la compétition hein, entre deux gardiens comme ça, mais pareil, combien de matchs ils vont jouer, est-ce qu'ils vont tourner, est-ce qu'ils vont... C'était pas forcément le secteur qu'on aurait dû, enfin qu'ils auraient dû renforcer. Je pense qu'on le connaît, hein, c'est au niveau du milieu, renforcer aussi la défense. Et de ce côté-là, bah, y a, je pense, encore des efforts à faire.
Oui, notamment alors, l'arrivée d'Achraf Hakimi, moi je trouve cette recrue très intelligente de la part du club parisien. Mais voilà, il faudrait également un défenseur gauche. Parce que les défenseurs gauches à Paris, sur les derniers gros matchs avec des champions, c'était souvent un très gros point faible de cette équipe.
Oui, c'est ça. Et puis bon, faut aussi surveiller la masse salariale. Hein.
Oui.
Plus ça va s'accumuler, plus ça va être compliqué de passer un moment auprès de la DNCG ou du fair play financier. Quoi.
Bon, en tout cas, voilà, la Ligue 1 reprend dès ce week-end. Hein, on vous l'a déjà dit. Ce championnat reprend avec un Monaco-Nantes. Et cette journée se terminera par le déplacement des Marseillais à Montpellier. Est-ce qu'on fait une petite pause musicale, Cédric, avant d'embrayer sur les Jeux Olympiques?
On va faire, oui, une petite pause musicale. Par contre, on va peut-être parler d'une info qui est arrivée aujourd'hui, qui concerne le milieu amateur du foot, puisque apparemment, je mets encore quand même du conditionnel, parce que tant qu'il n'y a rien de publié, j'ai envie de dire officiellement, ça reste un peu des paroles en l'air, mais... il serait fort probable que les clubs amateurs soient obligés d'imposer le pass sanitaire pour les entraînements, pour les matchs. Et ouais, c'est à peu près tout, mais ce qui va être très compliqué à mettre en place, puisque faut pas oublier que beaucoup de clubs, c'est des bénévoles. Un bénévole, est-ce que c'est réellement son travail de faire la police et de contrôler tout le monde? Surtout que les matchs amateurs, est-ce qu'on a des centaines de personnes de présence? Je ne suis pas forcément sûr non plus à chaque fois. Je pense que la jauge de 50 personnes maximum, je pense que on peut l'avoir hein, facilement, sans problème. Puis en plus, ça veut dire pénaliser les jeunes joueurs. Donc... Là, je comprends pas la décision de la fédération de l'imposer au milieu amateur, et dans ces cas-là, on l'impose à tout le monde, hein. Même les pros, et puis on part sur une égalité dans le monde du football. Donc.
Ouais, c'est sûr que ce serait assez étrange de voir les championnats professionnels français de ne pas être soumis à ce pass sanitaire. C'est en Suisse, hein, où le championnat professionnel a mis en place donc le pass vaccinal, le pass sanitaire pour tous les joueurs du championnat ainsi que pour tout le staff. Donc peut-être qu'on verra le jour, on verra cette règle mise en place dans, que ce soit en France ou dans les autres grands championnats européens. Voilà, ça va être des décisions qui vont être prises dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Donc ça, c'est une affaire à suivre, mais c'est vrai que s'il n'y avait que le sport amateur qui devait être pris à partie par cette règle, je pense qu'il risque d'y avoir des sacrés débordements et des cris aux inégalités, c'est sûr.
Du coup, on va marquer la seule pause musicale, je pense, de l'émission. On va écouter du coup Black M et La Légende Black.
Oh, oh. Les yeux plus gros que le monde. Dr. Berry's Big Black.
Damn. Et on disait qu'il avait trop de tir et qu'il vendait du rêve aux ladies. Et pour lui, personne se faisait de pire. Pas besoin de cogiter ta diatité. Black M.
Quand il chantait, il faisait la dip. Et avec ses mélodies, on oubliait la crise. Pour ne pas se prendre la tête, disait ainsi soit-il.
Pas besoin de cogiter, t'as déjà tilté.
As-tu depuis Wati comment leur dire que c'est moi le king c'est moi qui vous dicte le chapitre. Rêveur, on me dit je suis chez père. Mais le Big Black M, il a ses pères. Et on dit que la chute elle est sévère. Mais le débrouillard il sait faire. J'ai le sang du daron de la Guinée. Tout comme j'ai le sang d'un rappeur qui s'est kické. Je me fous de vos idoles qu'un riz. Ce n'est pas eux qui me donnent le maro. Je suis pas dans les délires elle est. Quand le soleil frappe je suis plutôt maroc. Gros son pour les refrains. Il faut que tout le monde chante mon refrain.
Et on disait qu'il avait trop de tir. Et qu'il vendait du rêve aux ladies. Et pour lui personne se faisait de bire. Pas besoin de cogiter ta diatité, Black M.
Quand il chantait, il faisait la dip. Et avec ses mélodies, on oubliait la crise. Pour ne pas se prendre la tête, disait ainsi soit-il.
Pas besoin de cogiter ta diatité.
Sans pour autant vouloir être mauvais. M'en voulais pas d'avoir innové. Oh, tous vos sons me donnent la nausée. J'étais au tiers car souvent posé. Je voulais que personne vienne me causer. Je voulais juste dream et me sauver. Fuck l'intérim, je préférais chômer. Vous comment dit que je finirais paumé. J'avais que section pour m'épauler. J'étais souvent dur et en colère. Oui, je n'aimais pas le système scolaire. J'avais du mal avec les horaires. Et mes ennemis, je disais, je les aurais. Je ne suis pas là pour décorer. Non, Renoir, faut pas décoller.
Et on disait qu'il avait trop de tir. Et qu'il vendait du rêve aux ladies. Et pour lui, personne se faisait de pire. Pas besoin de cogiter ta diatité, Black M.
Quand il chantait, il faisait la dip. Et avec ses mélodies, on oubliait la crise. Pour ne pas se prendre la tête, disait ainsi soit-il.
Pas besoin de cogiter ta diatité.
Ce qu'ont vu tous les grands de ce monde, n'est-ce pas? J'ai que ma gueule, ma musique et mon style. Pour m'en sortir, j'ai dû transmettre ma peine sur mon titre, mon gars.
Si j'ai les yeux plus gros que le monde, c'est que j'ai dû voir ce qu'ont vu tous les grands de ce monde, n'est-ce pas? J'ai que ma gueule, ma musique et mon style. Pour m'en sortir, j'ai dû transmettre ma peine sur mes titres,
et
mon
on
gars.
Et on disait qu'il avait trop de tir. Et qu'il vendait du rêve aux ladies. Et pour lui, personne se faisait de pire. Pas besoin de cogiter ta diatité, Black M.
Quand il chantait, il faisait la dip. Et avec ses mélodies, on oubliait la crise. Pour ne pas se prendre la tête, disait ainsi soit-il.
Pas besoin de cogiter ta diatité.
Na 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 est de retour dans les studios de Radio G pour la seconde partie de notre émission Génération Sport. Je suis toujours avec Cédric dans les studios de Radio G. On vient de parler de du foot et de la reprise de la Ligue 1. Et tout de suite, on va parler Jeux Olympiques, Cédric, avec un petit récapitulatif des médailles françaises jusqu'ici.
Oui, on peut dire que on a eu une belle semaine olympique, hein, puisque je vais vous faire le détail des disciplines qui ont rapporté des médailles. Mais donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes rendus à 24 médailles, dont 6 d'or, 10 d'argent et 8 de bronze. Selon toi, qui c'est qui a été le plus gros pourvoyeur de médailles ?
Parmi les Français ?
Parmi les sports, enfin les disciplines.
Ah, les disciplines qui ont rapporté le plus de médailles en France,
oui.
Bah, techniquement, c'est le judo, non ?
Ouais.
Judo, si on compte la victoire, la médaille d'or de l'équipe mixte. Et puis même à côté de ça, il y a eu pas mal d'autres médailles. Alors, ça fait combien de médailles en tout pour le judo français ?
8 médailles.
Et pour donc l'équipe mixte, tu comptes une seule médaille ou t'en comptes
plus ? C'est ça, oui, ça compte.
Ah oui, donc c'est pas mal.
C'est 2 médailles d'or, 3 d'argent et 3 de bronze. Mm-hmm. Ce qui fait que en termes de rang des pays, on est deuxième en termes de judo.
Ok.
C'est suivi par l'escrime qui a 5 médailles. Pareil, l'escrime qui est deuxième au rang mondial de ces JO. Ensuite, peut-être un sport qu'on n'attendait pas autant, c'est l'aviron, avec 2 médailles. Du coup, ils sont cinquième de ces Olympiades en termes de médailles. Le tir, avec 1, donc la seule d'or. Et ensuite, à partir de la cinquième place, c'est grâce aux médailles d'argent et de bronze. On a la voile, la natation qui est à égalité avec le rugby à 7. Donc j'ai envie de dire, bon, quelque part pour le rugby à 7, c'est logique qu'il n'y ait qu'une seule médaille. Puisque... et ensuite, en 8e place ex aequo, on a le cyclisme, l'équitation, le taekwondo et le triathlon. Pareil, le triathlon, c'est la médaille par équipe. En termes de résultats sur les journées, la journée la plus performante, ça a été celle du 31, avec 6 médailles. Mmh. Une d'or, 4 d'argent et une de bronze. Donc ça correspond au titre par équipe du judo français. En termes de médailles hommes et femmes, à ton avis, c'est...
Je pense que les femmes dominent à ce niveau-là.
Ouais, 12. Enfin, après, c'est quand même assez serré, on va dire. C'est 12 médailles pour les femmes et 9 pour les hommes. Et il y en a 3, bien sûr, qui sont mix.
Oui. Et justement, en termes de dernière performance française, on a pu vivre la journée de Teddy Riner. La Riner qu'on annonçait, bah, qui était toujours l'un des favoris du tournoi, mais voilà, qu'on annonçait pas trop comme étant le très gros favori de ce tournoi. Et finalement, Cédric, il a eu une médaille, mais il n'a pas eu la médaille d'or.
Non, ouais, c'est le bronze qui est tombé quelque part, j'ai envie de dire, à cause, entre autres, du règlement du judo maintenant. Mais il y a aussi, si on reprend tous les éléments qui peuvent expliquer ce semi-échec, il y a cette blessure apparemment qu'il a eu au genou il y a plus de 5 mois, qui l'a handicapé, donc est-ce qu'il n'y avait pas encore des traces ? Il y a selon moi aussi le manque de compétition qui a fait qui chute comme ça. Après, bon, il perd contre le numéro 1 mondial, le russe, au Golden Score. Mm. Sachant que pendant le temps régulier, il menait 2 pénalités à 0. Donc voilà. C'est ça aussi qu'il fait, c'est qu'il perd juste sur un mouvement. J'ai pas vu le mouvement, donc je sais pas s'il y avait réellement en termes d'impact l'équivalent d'un Wasari ou d'un Ippon. Mais quand on est au Golden Store, il suffit que tu tombes sur les fesses, ça te donne la victoire. Donc c'est pour ça, après, cette défaite, elle est somme toute, elle comptera, elle fait partie, mais elle est sur, juste sur ce point du règlement qui, pour moi, m'exaspère, parce qu'on a vu beaucoup de combats se finir sur ces fameux Golden Score, qui au final ne veut rien dire, quoi.
En tout cas, comme tu l'as dit, malgré cette médaille de bronze, cette troisième place au podium, le judo français est sorti grandi de ces Olympiades. Même si Riner n'a pas pu décrocher son troisième titre olympique, c'est ça, il a pu décrocher un autre titre olympique, celle du judo mixte, donc de l'équipe mixte, avec notamment Clarisse Agbenianou, qui elle donc remporte...
Qui fait le doublé,
voilà, double médaille d'or dans ces Olympiades. C'est vraiment le sportif français qu'on attendait le plus, et elle ne déçoit pas du tout.
Porte-drapeau. Elle a vaincu la malédiction du porte-drapeau, parce qu'on a vu, hélas, pour le deuxième porte-drapeau...
On pourra revenir
sur... On en parlera ensuite, mais... on a eu une belle équipe... Mix, en plus, fallait quand même une très belle finale. Au final, sur le papier, c'était le scénario idéal. On tombait contre les Japonais pour la finale, et puis la finale, elle s'est déroulée toute seule. Enfin, c'est une belle finale. Il y avait un bon état d'esprit. Enfin, on l'a vu, hein, c'était limite un gros soulagement une fois que le coup près est tombé et que la décision était donnée, quoi. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu en termes de sport d'équipe une telle explosion de joie, quoi.
Ouais, c'est sûr, c'était un très bon moment. Et puis Teddy Riner l'a dit lui-même, il est très très ravi de ces Jeux Olympiques, parce que cette médaille d'or, elle a un goût particulier pour lui. Alors certes, il ramène le bronze, mais il est quand même très satisfait. On va quitter les tatamis et le judo. J'aimerais revenir sur une autre médaille française, une que pour le coup j'attendais pas beaucoup. C'est celle de Florent Manaudou, qui a remporté la médaille d'argent lors du 50 mètres nage libre. Alors la finale s'est disputée dans la nuit de samedi à dimanche. Florent Manaudou qui avait quitté le monde, qui avait quitté les bassins, qui avait quitté le monde de la natation pour se lancer dans le handball. Il n'avait pas trop réussi. Et finalement, il est revenu pour ces Jeux Olympiques et fait une très grosse performance. Alors, il arrive derrière, devant le monstre américain Dressel, hein, Dressel qui a remporté 5 médailles d'or, il me semble, durant ces Olympiades. Qu'est-ce que tu as pensé de cette performance de Manaudou ?
Est-ce qu'on l'attendait réellement à ce niveau-là? Moi, de mon côté, j'étais pas persuadé qu'il allait performer. Hein.
Ah oui, clairement.
Il a quand même eu des hauts et des bas depuis qu'il est revenu. Au final, il a tout donné. C'est passé, mais il serait pas. Il aurait fini 8e, ça aurait pas été non plus choquant, quoi. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que d'habitude, la natation qui nous ramène beaucoup de médailles. Il y a eu quand même pas mal de déceptions. Il y a eu des côtés encourageants sur des nages et des longueurs où on pensait pas limite passer le premier tour et où on a continué. Et quand ça nage vite dans une première série, et qu'on sait que t'es dans la deuxième série, que si t'es pas dans les quatre premiers ou les trois premiers, tu vas autant par repêchage. Mais si ça a été déjà trop vite dans la première, tes chances. Finalement, si tu finis cinquième, tu ne passes pas. Donc ça se joue sur plein de petits détails. Bilan, du coup, on va dire très, très dommageable pour l'équipe de natation.
Ouais, c'est vrai que durant ces dernières Olympiades, on avait l'occasion de voir beaucoup de médailles autour de coups des nageurs français. C'est pas trop le cas cette année. On va parler d'un autre sportif français. On va faire un peu le tour des sportifs français qui nous ont plu ou qui nous ont déplu durant ces Olympiades. Il y a une autre petite déception. Alors là également, on savait que les chances de médailles n'étaient pas très très élevées. Mais il repart bredouille de cette finale du saut à la perche, c'est Renaud Lavilloni.
Oui, pareil, j'ai pas pu voir son concours, mais j'ai vu quelques résumés là tout à l'heure. Il arrive blessé. Bon, il fait apparemment une super qualification. Et ce matin, juste avant la finale, il se blesse.
Aux deux chevilles.
Enfin, à la deuxième cheville. Ouais, voilà. Il fait son premier saut. Enfin, en tout cas, il arrive à passer un premier saut, mais dans la douleur. Du coup, il fait l'impasse sur certaines hauteurs pour aller au plus haut possible. Et, premier saut qu'il tente, ça passe pas. Et deuxième saut, il touche la barre. Donc, il finit, hélas, huitième. Après, je suis qu'à moitié surpris. Hein. Il a quand même eu une saison difficile. Et puis bon, hélas, j'ai envie de dire pour lui, il arrive aussi en fin de carrière peut-être sportif.
Oui, c'est vrai que ça fait quelques années, les dernières compétitions en tout cas que Renaud Laveloni a l'occasion de participer, à l'occasion de jouer. Voilà, on retrouve moins son dynamisme et ses performances qu'il avait il y a quelques années de ça. Vous vous en doutez, la finale de saut à la perche qui a été remportée par le Suédois Arnaud Duplantis, qui était d'ailleurs tout proche de battre son propre record du monde. Alors je ne sais plus exactement la perche à combien elle est, mais vraiment il était à deux doigts de battre son record pendant ces Jeux Olympiques. Ça n'a pas été le cas. Donc voilà, Renaud Laveloni qui quitte ses Jeux Olympiques au Japon. Autre déception française. Alors là, après, on pourra avoir un débat sur ce sportif. C'est Pierre-Ambroise Boss qui a été éliminé dès les demi-finales du 800 mètres. Lui qui avait gagné les championnats du monde en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'était que PAB, c'est l'homme d'une course véritablement? Parce qu'on ne l'a pas vu briller ailleurs que pendant ces championnats du monde 2017. Et au final, depuis ces championnats, on attend beaucoup de lui aux prochaines compétitions. À Doha, en 2019, pareil, il avait déçu comme la majeure partie des athlètes français. Et là, aux Jeux Olympiques, il déçoit encore une fois. C'est quoi ton avis sur lui, toi, Cédric?
Je pense qu'on a peut-être vu une star en lui qui finalement c'était pas quoi. Enfin, il y a eu aussi des histoires extra sportives aussi qui ont qu'on fait peu parler. Personnellement c'est un athlète que j'ai pas plus d'affinité. J'ai trouvé c'est un peu toujours son attitude un peu arrogante. Et sa façon de penser par rapport à son sport, enfin, ça me convenait pas. Donc, j'ai envie de dire, quelque part, je suis pas surpris. En tout cas, si on m'avait demandé de citer des potentiels médaillés, je l'aurais pas mis, quoi.
Ouais, et justement, la finale du 800 mètres aura lieu demain sur les coups de 14h. Mais il y aura un Français dans cette finale, puisque le jeune Gabriel Tual, qui est encore étudiant, donc s'est qualifié pour cette finale du 800 mètres. Donc à voir si demain le jeune Bordelais réussira un exploit. Ce serait une bonne chose.
Il y a un Américain dans la finale ?
Y a-t-il un Américain ? Je n'ai pas la liste sous les yeux.
Parce que comme on sait aussi que les Américains aussi en athlétisme qui étaient présentés comme archi-favoris, c'est pas forcément une grosse réussite et ils misent beaucoup sur les dernières épreuves. Donc,
Il y a Clayton Murphy dans cette finale du 800 mètres demain à côté du jeune Français. Ouais,
ouais, donc il faudra le surveiller, enfin, entre autres. Les Américains sur les dernières compétitions d'athlétisme, parce qu'ils veulent infirmer leur domination.
Avant de parler des sports collectifs qui sont donc des équipes françaises qui sont pas mal à l'honneur ces derniers jours, il y a un sportif qui va entamer sa compétition, une des plus grandes chances de médaille, c'est Kevin Mayer. Donc il me semble qu'il commence demain.
Oui, cette nuit à 2h du matin, voilà, par le 100 mètres, il me semble.
C'est possible, honnêtement, j'ai pas les épreuves sous les yeux. Et voilà, Kevin Mayer qui va commencer donc son décathlon dès cette nuit. C'est évidemment un des favoris de cette discipline. Est-ce que tu crois en cette médaille d'or, Cédric?
Tout est possible. C'est tellement compliqué cette discipline. enfin, quel que soit le vainqueur, c'est toujours impressionnant de voir les différentes performances. Surtout, je pense, en deuxième journée, parce que la première, enfin, déjà, les voir dans la première journée enchaîner comme ça, on les voit souvent quand même déjà fatigués, mais c'est vraiment quand ils finissent la dernière course qu'on les voit complètement vidés de toute l'énergie. Non, c'est un sport, oui, voilà, qui en faut. Après, j'espère qu'il ne va pas avoir certains démons qui vont ressurgir, comme sa peur de sauter, suite à ses blessures, tout ça. Il y a eu un très bon reportage, justement, avant les JO, diffusé, où on voyait son angoisse de sauter, puisqu'il s'était blessé. Comme ça, je crois que c'était au championnat du monde.
Bah, ça devait être à Doha en 2019.
Au championnat du monde, ouais, c'est ça. Ouais. Où il saute, mais derrière, il peut pas continuer. Donc, ça lui avait fait un blocage. Il en a fait quelques-uns, notamment un pour se qualifier, où voilà, c'est passé. Donc, on va espérer que tout ça, c'est passé et voilà, qu'il va donner le maximum qu'il pourra. Mais après, je pense que oui, ça reste quand même encore une belle chance de médaille. Quoi.
On espère en tout cas que Kevin Mayer réussira à accrocher une médaille. On va parler maintenant des sports collectifs. Vous avez bien évidemment suivi la campagne catastrophique de l'équipe de France de football. Mais il y a trois autres sports collectifs où ça se déroule plutôt bien. On va d'abord parler du basket, puisqu'aujourd'hui, l'équipe de France donc a battu l'Italie lors des quarts de finale 84 à 75. Et affrontera en demi-finale jeudi 5 août la Slovénie. Ce sera à partir de 13h. Après cette victoire, notamment face aux États-Unis en match pendant les poules de cette compétition, est-ce que tu la sens bien, ce 5 de l'équipe de France?
En tout cas, on est rassuré, je dirais, sur le niveau. Parce que, pareil, ça a été compliqué pour eux. Il n'y a pas eu forcément tout le temps du beau jeu ces derniers temps. Peut-être plus confiant pour cette équipe-là que celle qu'on va parler après, le volley, par exemple. Mm-hmm. Après, je pense qu'ils sont capables de tout. Ils sont au pied d'une potentielle médaille assurée. Donc, je pense qu'ils vont tout donner pour aller chercher cette finale.
Et justement, tu en as parlé et on va embrayer sur le volley, les volleyeurs masculins. Les hommes se sont qualifiés pour les demi-finales également du tournoi en écartant la Pologne. C'était aujourd'hui, donc victoire de l'équipe de France 3 manches à 2. Il me semble que c'est la première fois de leur histoire que l'équipe de France arrive à un tel niveau, non, mais un tel niveau dans la compétition. Donc là aussi, c'est très très prometteur au niveau de la demi-finale. Donc ce sera face à l'Argentine. Et pareil, ce sera à suivre jeudi 5 août à 14h. Et de l'autre côté, on a aussi une très belle confrontation entre le comité olympique russe qui affrontera le Brésil. Le Brésil qui a battu la France il y a quelques jours de ça. Mais malgré cette défaite, l'équipe de France s'est quand même qualifiée.
Et puis qui sont champions olympiques en titre.
Champions olympiques en titre, oui.
Le Brésil, donc.
D'ailleurs, petit fait intéressant, c'est il y a un joueur brésilien donc qui est positif au Covid-19 et qui joue avec un masque, mais qui joue bel et bien.
Il a été positif, c'est pour ça en fait qu'il...
Ah, il ne l'est plus ?
Non, en fait, okay. il a été contaminé et suite à ça, il a pris la décision de porter un masque aussi bien chez lui que dehors et sur les terrains, puisqu'il veut protéger aussi son fils qui a des problèmes de poumons. Enfin, des problèmes respiratoires plutôt. Mm-hmm. Et du coup, il veut aussi par ce geste-là faire comprendre l'importance du masque, notamment au Brésil, quand on sait le nombre de cas qu'ils ont, et sensibiliser justement la population à ça.
Et on n'a pas parlé, je reviens très brièvement sur le basket, mais sur l'équipe féminine qui est encore dans la compétition également. Ce sera les quarts de finale pour elle, ce sera demain et ce sera face à l'Espagne. Donc un très gros match attend les basketteuses féminines. En ce qui concerne le volley, elles ne sont plus dans la compétition. On va tous
Elles n'étaient pas présentes.
Sont... Elles n'étaient même pas présentes dans la compétition. Voilà, ouais. Au moins, on est sûr qu'elles n'y sont pas à l'heure actuelle. On va parler de hand maintenant, le troisième sport collectif qui est en plein essor pendant cette compétition. Aujourd'hui, la France a battu le Bahreïn en quart de finale. Et donc, la demi-finale se jouera jeudi prochain. Ce sera face à l'Égypte. Et de l'autre côté, il y a un très gros match. Espagne, Danemark, pareil, même question que pour le basket masculin. Est-ce que cette équipe de France t'a rassuré? Est-ce que t'es confiant pour au moins une chance de médaille?
Ah, ça va être dur contre l'Égypte.
Ouais.
En match de préparation, ils gagnent d'un point. Bon, après, même l'Allemagne, ça aurait été peut-être un petit peu plus jouable en termes de victoire. Là, il y avait une victoire un peu plus large. Après, tout est possible avec cette équipe. Hein. Bon, il y a eu les deux blessés qui ont fait mal, hélas. Surtout dans un match qui comptait pour du beurre. Le remplaçant, il a fait son taf. Hein. En plus, c'est une victoire qui est large, mais c'est une belle victoire. Il y avait quand même du jeu en face. C'était pas voilà, le petit outsider qu'on sait qui n'a pas le niveau. Non, non. Ils ont quand même sorti le Portugal, donc il y avait quand même du répondant en face. Hein. Donc c'est fort possible qu'on puisse avoir une médaille. Par contre, ouais, vu la demi-finale, la couleur, bah, elle peut être de bronze. Hein, parce que, je pense qu'il va falloir être costaud dans la tête et dans le geste. Quoi.
Voilà, en tout cas, vous l'avez compris, ce jeudi, journée très importante pour le sport collectif masculin français, avec une demi-finale de volley, une demi-finale de basket et une demi-finale de hand. Est-ce qu'il y a un autre point, un autre sujet de ces Jeux Olympiques que tu voulais aborder, Cédric?
On peut me dire un petit mot aussi sur l'équipe de basket féminin, de basket à 3, qui finit quatrième de ces JO. Pareil, c'était une première au JO pour cette équipe. Sport impressionnant, quand même. Ça joue vite, il y a de l'engagement. Je trouve ça encourageant, quand même, cette place, malgré qu'il n'y ait pas de médaille pour 2024. Et puis voilà, au niveau des sports par équipe, oui, je crois qu'on a fait tout le tour. On va peut-être passer sur les choses qui fâchent un peu, parce que là, ça concerne exclusivement, hélas, la France, mais le problème est peut-être beaucoup plus grave. On va revenir sur la boxe, surtout le dernier combat. Voilà, où il y a une décision arbitrale qui est contraire à l'esprit en plus olympique, du coup, enfin, c'est hallucinant, puisqu'une disqualification du boxeur français. Alors, est-ce que tu as le nom?
Donc c'est Aliyev, non?
Attends, je suis en train de rechercher ça.
Mourad Aliyev.
Dans mes stats.
C'est ça.
C'est
la,
ça,
la disqualification, pardon, de Mourad Aliyev, oui.
Voilà, qui est peut-être... autant on avait discuté sur la première défaite dans le groupe France en boxe, où il y avait une injustice sur le comptage et sur les gains de rounds. Là, c'est clairement, il y a eu un souci, mais vraiment juste de l'arbitre, qui donc prend la décision de le disqualifier sans l'avertir, enfin sans mettre d'avertissement, soi-disant pour un coup de tête.
Ouais, c'est ça, ou plus, pour les téléspectateurs, plusieurs petits coups dans la tête.
En tout cas, voilà, oui.
Parce qu'il me semble que son adversaire britannique avait les deux arcades sourcilières.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'il gagne le premier round. Dans le deuxième, il y a l'arcade qui s'ouvre, il y a interruption. Il y a intervention d'un soigneur et d'un médecin voilà, qui est habilité pour juger s'il peut continuer ou pas. Normalement, si j'ai bien compris, dans le règlement, c'est spécifié que s'il y a saignement, c'est arrêt du combat. on le renvoie. Et là, c'est dans le troisième round, il me semble, ou peut-être même dans le même round. Ils vont au contact, c'est des catégories assez lourdes. Ça, donc le contact, il se fait régulièrement. Et là, quand la deuxième arcade s'est mise à saigner, il y a arrêt du combat et disqualification du français.
Ouais, c'est assez incroyable qu'il n'y ait eu aucun avertissement.
C'est ça, normalement, il aurait dû au moins avoir un avertissement. Enfin, je crois que c'est deux avertissements avant d'être disqualifié.
Parce qu'une disqualification en cas de. Enfin, sans avertissement, c'est pour quelque chose de vraiment grave, de très grave, qui a été commis sur le ring. Ça n'a pas été le cas. Et donc, ouais, le boxeur français a refusé de quitter le ring suite à cette décision. Voilà,
soutenu par son staff.
Oui, bien sûr.
Soutenu par le représentant de la Fédération française de boxe. Et soutenu aussi, je crois, par peut-être une personne du comité olympique français ou. Donc oui, qu'on a décidé de.
Et en tout cas, ils
ont porté réclamation.
Ils ont fait appel.
Voilà.
Et malheureusement, je crois que cet appel n'a rien donné. On n'a pas donné suite.
Le TAS a voté en touche, comme souvent. Et, ce qui s'est passé, en fait, c'est que l'organisation du tournoi a bien reconnu qu'il y avait une faute. Mais alors ça, c'est une chose qui. Qu'on ne dise pas qu'il y a un problème dans le règlement. Le règlement spécifie qu'on ne peut pas revenir sur une décision. Donc, en gros, s'il y a magouille, on légifère ça. Et le problème, c'est que il y a eu, sur les 4 boxeurs, 4 ou 5 boxeurs français, il y a au moins 3 ou 4 décisions qui peuvent être litigieuses, dont 2 qui sont vraiment aussi. Puisqu'il y a eu aussi le chaos technique du vice-champion des JO aussi, qui, pareil, se fait compter, il remonte à 8. L'arbitre fait le check et derrière déclare le petit KO. Quoi. Donc, alors, ça encore, j'ai envie de dire, après s'être pris un KO, qu'on protège les athlètes, je comprends ça. C'est, même s'il était, lui, il sentait qu'il pouvait le faire, puisqu'ils n'ont même pas essayé de continuer le round. L'arbitre a dit direct non, il n'y a pas de signe de réponse. Donc, ça peut encore se comprendre. C'est un petit peu scandaleux, mais qu'on protège les athlètes, oui. Là, pour les saignements, ça fait partie de la boxe. Ils ont décidé d'enlever les casques. Après, voilà, faut assumer, il y a saignement, soit on applique le règlement, soit on les laisse combattre, et voilà. Donc, c'est l'avenir, je pense, que de la boxe est de plus en plus compromis. Peut-être pas encore en 2024, mais ça devient compliqué, quoi. Parce qu'on a enlevé les fédérations, c'était une fédération de boxe avant qui s'occupait, je sais plus c'est laquelle, de la boxe au JO. Il y avait Magouille et compagnie, ça a été prouvé. Là, on continue toujours à avoir des décisions très bizarres et qui laissent la suspicion, quoi.
En tout cas, c'est vrai que cette image, il me semble que c'est Alex qui en avait parlé, nous fait un peu repenser ou regretter Alexis Bastine, qui avait pareil été un peu sali durant les Olympiades. Alors, est-ce que c'était à Pékin en 2008 ou à Londres en 2012? Je ne sais plus. Est-ce que ça te revient?
Je ne sais plus du tout lesquels que c'est. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est que quand on voit la belle épopée qu'on avait fait à Rio, et là, enfin, ça a été le jour et la nuit, quoi.
Ouais, clairement.
Donc, c'est pour ça. Après, ça se trouve, il y a des décisions arbitrales pour d'autres pays qui ont été injustes. Parce que, par exemple, ils ont parlé pour le français au départ que la sanction était due à son comportement pendant la décision, quoi, qu'il était disqualifié. Dans ces cas-là, rappelez-vous du geste de l'Américain face au Français qui fait des doigts d'honneur. Mmh. Il me semble pas qu'il ait été.
Non.
Mais voilà, enfin, c'est ce côté-là aussi. Voilà, le CIO qui, je sais pas si tu as vu ça aussi, cette athlète américaine qui a fait le signe X,
oui.
Enfin, ça a fait un X en, avec le croisement des bras, en soutien de l'oppression sur les Noirs américains, mm-hmm. et sur, enfin, sur tout, voilà, sur tout le monde, quoi. Qui risque peut-être une sanction parce qu'elle a fait ce geste-là sur le podium. Alors que le CEO a dit, vous avez le droit de mettre en avant des causes, mais il ne faut pas que ce soit avant le podium, ni après le podium. Enfin, faut...
Ni pendant le podium, visiblement.
Oui, enfin, voilà. Enfin, en gros, c'est, vous avez le droit, mais quand ça nous arrange.
Est-ce que je me trouve... Alors, il me semble... Est-ce que c'est pas la...
C'est une lanceuse, il me semble.
Une lanceuse qui avait un masque.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Ok. Oui, donc qui a fait un geste, qui a brasé les bras, qui a croisé les bras, pardon.
C'est ça. Ouais, c'est.
Ouais. Donc ouais, bah si cette personne-là venait être condamnée d'une manière ou d'une autre par par le comité olympique, ce serait d'un ridicule incroyable.
Là, je trouve que voilà, enfin de le comité olympique qui a voulu changer la devise en rajoutant le ensemble, qui veut donner plus de liberté d'expression pour que les athlètes s'expriment sur les causes, mais il faut les faire selon leurs termes et pas. Bah, enfin. Bah, oui, on voit que derrière aussi, il y a encore des enjeux, pas politiques, mais là, c'est d'argent, donc là où ça pourrait choquer un partenaire historique.
Et moi, comme un acte que je comprends absolument pas du CEO, c'est le fait donc dans un premier temps d'exclure donc là ça n'a pas été pris par le CEO, mais d'exclure la Russie de toute compétition internationale, et là de commencer ces Olympiades et de voir, alors certes c'est pas la Russie, mais c'est le comité olympique russe, le drapeau est un drapeau russe. Je ne comprends clairement pas cette décision.
Les couleurs de l'équipe sont...
Les couleurs de l'équipe et même le drapeau du comité olympique
oui,
russe. Ben,
hein,
voilà.
Oui, il y a les couleurs qui...
Donc c'est pas... Oui. Les sportifs russes devaient concourir sous bannière neutre. C'est tout sauf une bannière neutre. Pareil, c'est encore un point très, très bizarre oui, et voilà, oui, très oui, politique de ce comité olympique.
On avait déjà eu le débat. C'est vrai que c'est pas forcément à toutes les athlètes d'en pâtir des magouilles qui ont pu être faites par le gouvernement ou par des fédérations.
Mais ça, ça...
Mais c'est...
Le fait que cette équipe soit nommée ainsi, ça n'a pas été annoncé.
Il
faudrait
avoir juste le drapeau avec les anneaux, voilà.
En tout cas, voilà, il est déjà 21h, il est 20h59 plus précisément, l'occasion pour moi de vous annoncer donc et de vous réannoncer les prochains rendez-vous importants. Grosse journée jeudi avec le sport collectif masculin qui sera à l'honneur avec une demi-finale de volleyball. Donc ce sera aux Jeux Olympiques, la France qui affrontera l'Argentine. En même temps, pendant le donc il y aura du handball, la France affrontera l'Égypte. Et puis du côté du basket, encore une demi-finale, la France